En décembre 2024, le cyclone Chido n'a pas seulement balayé les routes, les toits et les lignes électriques de Mayotte, il a également mis à nu l'isolement chronique du 101e département français. Coupée de ses réseaux, privée d'électricité, l'île s'est retrouvée dans une situation de quasi-silence médiatique, les journalistes locaux se battant pour continuer à informer, parfois avec des moyens de fortune. Dans ce contexte, même les chiffres du désastre, nombre de morts, de disparus, ampleur des dégâts matériels, restent flous et contestés. Le cyclone a d'abord été une tragédie humaine et sociale, mais Chido a également agi comme un révélateur. À Mayotte, l'enjeu n'est pas seulement de reconstruire après le cyclone, mais de retrouver une capacité à documenter, comprendre et rendre visibles les réalités de l'île. Des enjeux auxquels sont confrontés les deux invités que nous recevons aujourd'hui. Bonjour Sarah Bronsard.
Bonjour.
Tu es doctorante en géographie et en urbanisme à l'Université Lyon 2. Ta thèse s'intitule pour le moment « Rénover pour normaliser la rénovation urbaine à Mayotte, produire la ville aux frontières de l'État ». Nous accueillons également Tanguy Maton-Cécilion, bonjour.
Bonjour.
Tu es doctorant en sciences de l'éducation à l'Université Paris-Nanterre. Ta thèse s'intitule pour l'instant « Devenir majeur à Mayotte, bénéficier de ressources inégalement réparties, l'enjeu des institutions éducatives et socio-éducatives ». Pourquoi avoir décidé de faire des thèses sur Mayotte et quel lien entreteniez-vous avec ce territoire avant le début de vos recherches ?
De mon côté, j'ai commencé à travailler sur Mayotte à l'occasion de mon stage de première année de master et j'ai eu l'occasion, donc en deuxième année de master, de faire mon erreur de recherche sur la population de Mayotte, qui m'a permis de me rendre pour la première fois sur le territoire pour faire mes premiers terrains, pour découvrir la situation. Le contexte de Mayotte et de l'archipel m'a beaucoup intéressé en première année, donc j'ai eu envie de continuer en mémoire. Et voilà, donc ce qui m'a permis d'arriver pour la première fois sur l'île, dans ce cadre-là, et c'était pour un séjour de 3 mois à l'origine. Et j'avais le choix à la fin de rester ou de repartir vers d'autres projets. J'ai préféré rester pour découvrir davantage, et c'est comme ça que j'ai commencé à travailler sur place. Donc j'ai travaillé dans un premier temps à l'INSEE, au niveau du recensement de la population, au niveau de la supervision des opérations de recensement, ce qui m'a permis de découvrir le versant production des données après avoir découvert le côté recherche vraiment pendant mes études en démographie. Et après, j'ai travaillé sur une étude dans le cadre d'une recherche donc sur le dénombrement des enfants non scolarisés à Mayotte avec l'Université de Paris-Nanterre. Donc c'était après mon premier emploi à l'INSEE. Donc une étude qui m'a permis de retourner dans le volet recherche, dans le volet vraiment exploitation, traitement des données. Et donc c'est dans ce cadre-là que cette recherche m'a permis de faire comme un petit tremplin finalement en direction d'un projet de thèse. J'ai travaillé donc avec une population d'enfants en âge d'être scolarisés, ce qui m'a donné à voir la population des jeunes qui étaient après l'âge de l'instruction obligatoire, donc jusqu'à 15 ans révolus, et ce qui m'a donné envie de proposer un projet de thèse sur la situation des jeunes autour de l'âge de la majorité à Mayotte. Enfin, donc c'est comme ça que je me suis retrouvé à commencer ma thèse après.
Toi, Sarah, tu fais une thèse en urbanisme. Est-ce que tu peux nous décrire ta trajectoire ?
Oui, du coup, moi, je suis arrivée à Mayotte sans faire une recherche doctorale ou une recherche tout court initialement, puisque l'année où j'ai vécu, donc en 2022-2023, j'étais prof d'histoire-géo un peu aussi par hasard. Donc, je suis arrivée à Mayotte, tout était imprévu et pas déterminé dans une trajectoire très, très claire. Mais moi, j'avais travaillé surtout pendant mes études d'urbanisme sur les quartiers prioritaires donc de la politique de la ville, vraiment sur comment ils étaient rénovés depuis quelques années, comment ils étaient gérés. C'était beaucoup des problématiques de conception et de gestion des espaces extérieurs, des espaces publics. Et je travaillais surtout sur une politique publique, donc sur la rénovation urbaine, sur l'Agence nationale de la rénovation urbaine et qui pilote la restructuration et la rénovation des quartiers dit prioritaire, donc ou des quartiers politiques de la ville, les noms varient souvent, qui pilote donc ces politiques de rénovation depuis 2003. Donc en fait, moi j'avais vraiment une vision en arrivant à Mayotte très projet urbain, aussi restructuration des quartiers, et beaucoup de démolition donc des quartiers, mais donc sur des projets urbains qui étaient assez spécifiques. Et quand je suis arrivée à Mayotte, donc j'étais prof d'histoire géo. Je travaillais dans un lycée qui était dans le quartier de Kaweni, donc qui est un quartier de Mamoudzou, donc du chef-lieu de Mayotte. Et c'est un quartier dans lequel il y avait notamment un très gros projet urbain, qui était un projet urbain justement de l'ANRU. Donc j'étais à côté en fait de ce projet urbain. Enfin, je travaillais à côté et je le traversais souvent. Et de voir ce projet se mettre en place, modifier le territoire en étant voisine de ces chantiers-là, que j'ai commencé un peu à m'y intéresser. Il se trouve que j'étais aussi dans des sociabilités qui était beaucoup composé d'urbanistes et d'architectes, qui en plus donc en parlaient d'un point de vue beaucoup plus opérationnel. Et moi, ce qui a été vraiment déclencheur, c'est l'opération Wambushu, donc de Darmanin, puisque c'est à ce moment-là que vraiment dans l'espace public, disons, ont été mis ensemble les problématiques de logement insalubre et de questions sécuritaires et de questions migratoires. Donc c'est venu se répercuter aussi sur ce que j'entendais des projets urbains en cours, où la question migratoire, en fait, elle se posait directement aux urbanistes, puisque notamment sur les questions de relogement, c'est-à-dire qui est éligible au relogement, par exemple. J'étais très troublée, en fait, que cette Agence nationale de la rénovation urbaine, qui porte une politique assez, avec des principes assez similaires, en fait, d'aménagement, se soit transposée dans un territoire où, justement, les problématiques urbaines étaient complètement différentes. Il y a très peu de logements sociaux à Mayotte, donc on ne le détruit pas, comme c'est notamment le cas dans les rénovations urbaines en Hexagone. Donc, en fait, ma question, c'était un petit peu comment se transpose cette politique-là que j'analyse depuis longtemps, que je connais, mais seulement en Hexagone et qui est complètement redéfinie sur place, tout en ayant aussi ce moment comme ça d'acuité, on va dire, médiatique, et qui a été un moment sur place très, très particulier aussi, où il y a des discours localement qui se sont complètement décomplexés. Et surtout, il y a vraiment eu cette imbrication entre les questions sécuritaires, migratoires et spatiales de logement, notamment aussi autour des questions de foncier, de reconquête foncière. Enfin, moi, j'ai vraiment senti, sur cette année où j'étais, un basculement dans le lexique, en fait, qu'il y avait localement sur toutes ces questions-là et sur comment elles s'imbriquaient de manière très, très explicite, en fait, à partir de ce moment-là.
Vous êtes tous les deux en début de troisième année de thèse. Pour bien cerner vos objets et vos thématiques de recherche, à ce stade, comment est-ce que vous définiriez le périmètre de votre travail et quelles sont vos premières hypothèses ?
Donc moi, ce qui m'intéresse tout particulièrement, c'est donc d'analyser la situation des jeunes qui deviennent majeurs à Mayotte, d'analyser les conditions dans lesquelles les jeunes deviennent majeurs, donc dans ce territoire qui est un département français. Hein, depuis 2011, Mayotte est considéré comme un département français. Je dis considéré dans la mesure où il y a finalement énormément de choses qui sont différentes par rapport au reste de la France, tous les autres départements, que ce soit dans les Outre-mer, par exemple, tout simplement à La Réunion, qui est tout près. C'est quand même à 2 heures d'avion, mais c'est en tout cas dans la même région du globe que Mayotte. Et même par rapport au reste de la France hexagonale, il y a plein de choses qui sont différentes d'un point de vue réglementaire. Donc ce qui m'intéresse, c'est d'étudier un petit peu les conditions dans lesquelles les jeunes deviennent majeurs donc à Mayotte par rapport aux autres départements français, d'observer un petit peu quel est l'effet de la fréquentation des institutions éducatives, donc l'école, et des institutions socio-éducatives, toutes les associations également, donc quels étaient les effets de ces fréquentations sur les parcours de vie des jeunes. Donc j'avais différentes hypothèses, hein. Bien sûr que les jeunes âgés d'environ 18 ans à Mayotte sont différemment dotés en ressources à cet âge, mais également que cette différence de dotation en ressources va influencer après leur capacité à engager des projets à la fois personnels et professionnels après 18 ans. Et donc une troisième hypothèse qui était donc de proposer un capital, ce que j'appelle le capital des citoyens dans le cadre de ma thèse, qui permettrait dans le contexte très spécifique, et on y reviendra certainement après, le contexte très spécifique de Mayotte, d'expliquer donc une bonne partie des différences de situation des jeunes à 18 ans, donc le capital des citoyens finalement, qui serait essentiel à une bonne articulation des différents types de ressources des jeunes à la majorité. Donc peut-être au niveau du contexte de Mayotte, très rapidement, démographiquement, on sait que l'île est peuplée d'environ 330 000 habitants au 1er janvier 2025, hein, avec les opérations de recensement réalisées par l'INSEE. Et Mayotte est un des rares territoires avec plus d'étrangers que d'immigrés. Donc c'est-à-dire l'immigré au sens d'une personne née étrangère à l'étranger et résident en France. Donc on a environ 50% de la population de Mayotte qui est étrangère et également 35% qui est immigré. Donc c'est les proportions les plus hautes de France. Et pour revenir sur le contexte spécifique qui m'a conduit à travailler sur cette population des jeunes qui deviennent majeurs à Mayotte, le fait est qu'un nombre important de jeunes qui naissent sur le territoire français, sur l'île de Mayotte, deviennent majeurs et ne sont pas pour autant français, et en tout cas n'ont pas le titre de séjour qui leur permet de travailler, de poursuivre des études ailleurs qu'à Mayotte, ce qui les fait se retrouver de fait dans des situations de blocage. Toute une partie de la jeunesse mahoraise qui est en dehors des radars, dans des situations de blocage, voilà, qui ne leur permettent pas d'envisager l'avenir sereinement. Et en travaillant sur la précédente recherche sur le dénombrement des enfants non scolarisés, je me suis rendu compte, ce qui n'est pas une nouveauté, mais en les voyant, que cette population de jeunes qui arrive à la majorité et qui est désœuvrée ou en tout cas sans projet est très importante, très nombreuse. Voilà ce qui m'a donné envie de consacrer ce projet de thèse à cette population.
On comprend comment s'articulent les deux disciplines dans lesquelles tu t'inscris, à la fois l'aspect démographique et l'aspect sciences de l'éducation. Pourquoi est-ce que tu as fait le choix de ces différentes disciplines et quels outils t'apportent-elles pour ta recherche ?
Comme tu l'as dit, ces deux disciplines, à l'origine, moi, je suis diplômé en démographie avec le master de démographie, ce qui m'a permis de commencer à travailler sur Mayotte. Et la jonction s'est faite au moment où j'ai commencé à travailler sur cette recherche sur le dénombrement des enfants scolarisés. Donc les sciences de l'éducation sont arrivées à moi dans ce cadre-là, notamment en m'apportant une partie, on va dire, qualitative, avec énormément de travail de terrain pour aller au contact des quartiers, des associations de villages qui me permettaient d'accéder à des informations sur la situation de la scolarisation sur le territoire. Donc voilà, c'est cette recherche vraiment sur le dénombrement des enfants non scolarisés qui m'a permis de faire le lien entre ces deux recherches, parce que c'était à la fois un travail démographique avec toutes ces populations, c'était un dénombrement, donc vraiment purement démographique, et il y avait ce côté, bien sûr, sciences de l'éducation, institutions éducatives, les enfants non scolarisés à Mayotte. Et donc c'est comme ça que j'ai fait la rencontre de Gilles Séraphin, qui est mon co-directeur de thèse et qui est professeur donc, en sciences de l'éducation et de la formation, et mon co-directeur de thèse est Didier Botton, qui est professeur de démographie, qui était mon professeur en master. Donc c'est comme ça que de fil en aiguille, je me suis retrouvé à être co-encadré par ces deux professeurs en démographie et sciences de l'éducation et de la formation pour ma thèse.
Sarah, pour revenir sur ton projet de thèse, comment est-ce que tu le problématises et qu'est-ce que tu étudies sur ce projet urbain dont tu nous parlais précédemment ?
Moi, mon cadre justement de recherche, c'est ce projet-là. Enfin, c'est ça, le périmètre spatial, c'est aussi mon périmètre de réflexion. Donc en fait, je fais ce qu'on peut appeler une ethnographie du projet urbain, où l'idée, c'est vraiment d'analyser sur le temps de la thèse, qui va forcément être très restreint par rapport au temps de l'aménagement, puisque ce projet, il a été conventionné en 2018 et il va... Enfin, les chantiers ne seront pas finis complètement d'être livrés, en tout cas tous avant 2030. Donc en fait, moi, ma thèse, elle se situe vraiment au milieu de ce projet urbain. Donc on est quand même dans une période du projet qui est assez intéressante, c'est-à-dire que il y a déjà des chantiers qui sont en train d'être livrés, d'autres qui continuent d'être conçus sur des éléments de programmation un peu plus précis, mais on a globalement tous les éléments structurants du projet qui sont fixés, notamment les zones d'opération particulières, des opérations structurantes, et enfin voilà, donc moi je suis au milieu de ce projet urbain là. La particularité, c'est que je ne vais pas analyser comment ce projet il est vécu, comment il est pratiqué par les habitants de Kawéni qui vont vivre dans le quartier tel qu'il a été transformé. Mais ce qui m'intéresse, et c'est aussi ce qui fait suite à mes recherches plutôt de master, c'est d'être dans une analyse de la fabrique urbaine, donc de la fabrique au sens de comment se structure la conception, la production de la ville. Et c'est pour ça que je m'intéresse beaucoup aux acteurs de l'aménagement sur place et aux acteurs du projet en lui-même. Donc en étant à la fois sur les acteurs de la maîtrise d'ouvrage, donc qui vont commander, piloter, enfin vont avoir le portage, on va dire, de la programmation du projet, et les maîtrises d'œuvre, notamment donc par exemple les agences d'architectes, disons, qui vont en fait essayer de réfléchir et mettre en œuvre de manière pratique et matérielle le projet. Il y a à la fois analyser cette normalisation à travers ce projet-là, pour regarder cette normalisation par le logement et par les équipements, les infrastructures. Et normalisation, je l'entends aussi au niveau très matériel, puisque là, je m'inscris beaucoup dans les recherches de Clémence Léobal, donc qui travaille sur le logement social en Guyane. Et en fait, elle prend le parti vraiment d'analyser de manière très... Enfin, les conditions matérielles, en fait, de ces transformations. Qu'est-ce que... Enfin, à quoi ressemble finalement le paysage de cette ville normalisée, de cette ville modifiée par justement la départementalisation ? Et ça à plusieurs échelles, enfin, ça peut être vraiment l'échelle des nouveaux logements créés, enfin, donc les matériaux qui vont être utilisés, les formes, les compositions vraiment de maisons, donc au niveau vraiment très restreint de l'échelle du logement, mais aussi en revers finalement, qu'est-ce qui va être détruit, qu'est-ce qui va être, de quoi l'État ou les collectivités vont faire la promotion. Et finalement, ce qui m'intéresse, c'est vraiment cette zone de tension en fait entre la ville normalisée et la ville rabattue du côté du non formel et de l'illégal petit à petit. Donc en fait, ce qui est intéressant, c'est que sur ce projet-là, on voit vraiment un front finalement se dessiner de la ville normalisée, de la ville acceptée, légitime en fait, qui avance un petit peu par poche. Enfin, on a vraiment un dessin finalement de cette normalisation en cours, qui va aussi passer beaucoup par les questions foncières et par les conflits en fait aussi fonciers et d'appropriation foncière. Et voilà. Et après, ce qui est intervenu aussi petit à petit, c'est participer aussi aux études sur la blanchité, la construction de la blanchité à Mayotte, parce que comme je m'intéresse beaucoup au groupe social des concepteurs et concepteurs et conceptrices d'origine métropolitaine pour la plupart qui justement travaillent à Mayotte. Donc c'est vraiment aussi continuer à nourrir cette réflexion-là. Enfin, il y a des articles assez récents sur ça, puisque enfin, vraiment on est sur un groupe qui est traversé par cette expérience commune de venir collectivement de métropole, de venir souvent des mêmes écoles, enfin, de créer vraiment un réseau sur place assez spécifique. Donc je vais aussi à l'intérieur de cette ethnographie de projet, on va dire une sociologie de ce groupe social-là, enfin, des acteurs en fait, de ceux qui fabriquent la ville et qui transforment la ville actuellement. Et pour finir, je pense que parce que j'ai aussi, cette fois, en tout cas lors de mon dernier terrain, beaucoup interrogé les habitants et été avec les habitants sur les différents quartiers de Kaweni. Et l'idée, c'est aussi révéler ou en tout cas mettre en lumière c'est à quel point ce projet urbain montre un sac de dissonance en fait, entre ceux qui gouvernent en fait, sur place et qui projettent le territoire et celles et ceux qui le vivent.
Tu parles de dissonance, c'est poser la question du manque de savoir produit sur Mayotte. Tu parlais tout à l'heure, Tanguy, de l'INSEE, et je lisais que dans les publications des chiffres annuels de l'INSEE sur la population française, ceux-ci portent systématiquement la mention « hors Mayotte ». Quelles sont les conséquences de ce manque de connaissances générales ou de leur invisibilisation sur vos recherches respectives ? Tanguy, peut-être pour commencer, comme on vient de parler de l'INSEE.
Oui, on vient de parler de l'INSEE et justement, dans mon cas, en démographie, on a tendance à énormément, bien sûr, utiliser les chiffres de l'INSEE et notamment les chiffres du recensement de la population, qui est une enquête particulièrement intéressante. Et dans le contexte de Mayotte, le dernier recensement exhaustif de la population a eu lieu en 2017 et à partir de 2021, à la demande de notamment des élus de l'île, l'INSEE a procédé à un changement de méthode pour obtenir donc des chiffres actualisés toutes les années, comme ce qui est réalisé actuellement dans l'Hexagone et dans les autres départements d'outre-mer, mais ce qui a demandé du coup une adaptation et une période de transition qui faisait que théoriquement on n'avait pas de nouveaux chiffres entre les derniers publiés en 2017 et les prochains qui étaient censés être publiés à la fin de l'année 2025, après les 5 premières enquêtes annuelles de recensement, ce qui a débuté en 2021. Malheureusement, il y a eu différents événements qui ont un petit peu complexifié la chose, comme par exemple la pandémie de Covid-19. Donc c'était en 2020-2021, donc c'était 2021 la première enquête annuelle qui a été donc un petit peu impactée par la pandémie. Et en 2024, il y a eu ensuite un mouvement social qui a complexifié à nouveau les opérations de recensement. À nouveau, l'INSEE a pu s'adapter et on a eu Chido, donc le cyclone en décembre 2024 qui a frappé l'île et donc provoqué de nombreux décès, de nombreux blessés, de nombreuses infrastructures de l'île qui ont été dévastées et qui a bien sûr empêché les opérations de recensement du début de l'année 2025 de se tenir, tout simplement. Ce qui fait donc que les données ne seront pas publiées comme prévu en 2025 et qu'un recensement exhaustif va avoir lieu dans quelques semaines, dans quelques mois maintenant, donc à la fin de l'année 2025. Donc finalement, ça prend le revers du changement de méthode qui avait eu lieu à partir de 2021, qui avait notamment pour objectif d'intégrer Mayotte dans les statistiques nationales pour éviter de voir systématiquement apparaître la mention « hors Mayotte » en note en dessous des tableaux de données ou des graphiques, des figures, etc. Donc c'était un des enjeux qui avait été soulevé et dans l'objectif de faire comme les autres territoires, comme les autres départements, il n'y avait plus qu'à Mayotte, c'était le seul département français qui fonctionnait encore avec un recensement exhaustif quinquennal, donc tous les 5 ans. Voilà, donc finalement, ce changement de méthode qui était discuté par l'INSEE, il y avait des côtés positifs et négatifs, mais pour les élus, c'était surtout pour faire comme tout le monde.
Est-ce que toi, ça a eu des conséquences concrètes sur ta recherche ?
Les conséquences concrètes sur ma recherche ont été que depuis 2017, vu qu'il n'y a pas de nouveaux chiffres, je n'ai pas eu l'occasion d'exploiter des nouvelles données dans le cadre de ma thèse. Donc je travaille toujours avec les mêmes données que celles que j'ai mobilisées dans le cadre de mon mémoire, donc, qui était en 2021 du coup. Et je pense que d'ici la fin de ma thèse, je n'aurai pas l'occasion d'exploiter des nouvelles données du recensement.
Tanguy, je crois que tu as toi-même mis en place un dispositif particulier où tu as fait circuler des questionnaires. Est-ce que c'était une façon de pallier ce manque de connaissances ?
Donc moi, ce manque de données, ça m'a impacté directement et c'est ce qui m'a donné envie de partir sur ce projet d'enquête par questionnaire pour obtenir des informations actualisées et précises sur la population que j'étudie. Donc l'idée était d'aller à la rencontre des jeunes âgés d'environ 18 ans et d'obtenir des informations sur comment les jeunes se représentent, comment ils s'identifient à Mayotte, quelles sont les ressources qu'ils ont au niveau économique, au niveau social, culturel, les ressources au niveau citoyen, avec ce capital citoyen dont je parlais tout à l'heure, un petit peu au cœur de ma thèse, et aussi des informations sur comment ces jeunes se projettent à l'avenir, sachant que les jeunes âgés d'environ 18 ans à Mayotte, il y a plein de situations très différentes en fonction déjà tout simplement de la nationalité. Ceux qui possèdent la nationalité française, donc les Français et les Maoris, peuvent tout simplement poursuivre leurs études, que ce soit à l'université de Mayotte ou à l'université de La Réunion ou à une université dans l'Hexagone, à condition d'avoir les ressources économiques suffisantes, les ressources sociales également. C'est beaucoup plus facile, par exemple, pour certains qui ont de la famille, notamment de la fratrie en Hexagone ou à La Réunion, de pouvoir s'y rendre. Et les personnes qui n'ont pas la nationalité française, qui ne sont pas français, pour elles, c'est beaucoup plus compliqué, effectivement, de pouvoir avoir un titre de séjour qui leur permet ne serait-ce que de continuer des études à Mayotte ou à l'extérieur de Mayotte, hors territoire.
Sarah, est-ce que toi, le manque de données produites sur Mayotte a eu des conséquences sur ton terrain ?
Alors justement, je voudrais rappeler ou pointer le fait que c'est quelque chose que moi j'avais beaucoup en tête avant de commencer la thèse et quelque chose qu'on entend en fait aussi souvent beaucoup autour de Mayotte, à savoir l'idée qu'il y a très peu de choses produites, qu'on manque de recherche, on manque d'informations, on manque de littérature par rapport à ça. Donc je me suis un petit peu embarquée dans la thèse avec cette idée-là et en fait c'est quelque chose qui s'est aussi beaucoup, enfin que je pense que j'ai aussi déconstruit depuis et que maintenant ce discours-là, j'y suis assez vigilante parce que j'ai quand même l'impression qu'il vient aussi beaucoup alimenter cet imaginaire comme ça du lieu où il y a tout à faire, où tout est à construire. Enfin, on est vraiment sur matériellement cette traduction-là. Donc voilà, en fait, il y a quand même beaucoup de recherches. Il y a quand même pas mal de chercheurs qui travaillent sur ce territoire. Donc je dirais pas que ça m'a manqué, d'autant plus que j'analyse encore une fois un périmètre assez restreint. Donc c'est à moi de me créer ma base de données, surtout qu'en plus j'essaye de mettre en place une certaine expérimentation donc de recherche participative où là donc il y a beaucoup d'improvisation aussi notamment donc avec les habitants pour entrer sur le terrain pour avoir une certaine connaissance de ces quartiers là tout en prenant en compte le fait que j'y habite pas, que je même en ayant habité à Mayotte en étant revenu longtemps en terrain à Mayotte, j'ai jamais habité dans le quartier que j'analyse, donc trouver des contournements et des détournements pour entrer dans le quartier en prenant en compte aussi, enfin voilà, ma blanchité, mon genre, etc. Donc, par contre, actuellement, il y a un vivier, on va dire, de jeunes chercheurs et chercheuses autour de ce territoire. Donc, c'est aussi quelque chose d'assez riche actuellement. Et je pense que c'est un terrain qui nous pousse aussi vraiment à de l'inventivité par rapport à se créer sa base de données. En tout cas, moi, là, à mon échelle, que je trouve assez heuristique, déstabilisant des fois et un peu peut-être inconfortable sur... en tant que doctorante, mais en même temps, quand même enrichissant.
Mayotte, à peu près. Vous êtes content d'être en France ? Si c'était pas la France, vous seriez 10 000 fois plus dans la merde. Cette phrase, prononcée par Emmanuel Macron à une femme mahoraise qui déplorait le manque d'aide d'État quelques jours après le cyclone Chido, en décembre 2024, a suscité de nombreux commentaires. Beaucoup d'entre eux ont souligné le mépris du président de la République à l'égard d'une population sinistrée et traumatisée. Mais ce qui est dénoncé comme de l'arrogance de la part du président n'est pas un simple faux pas politique. Cela traduit plus largement la place marginale de Mayotte dans la pensée politique française, qui elle-même découle d'une construction historique, politique et sociale qu'il est important de rappeler. Confetti d'empire, territoire d'exception, laboratoire de la République, les expressions ne manquent pas pour qualifier les Outre-mer comme des territoires à part.
Vous avez tous les deux co-signé une tribune aux côtés d'autres chercheurs qui a été publiée après le cyclone Chido, qui soulignait à la fois le manque de connaissances et l'invisibilisation de celle-ci sur votre terrain. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cette tribune ? Comment en êtes-vous venu à la publier ?
Alors c'est une tribune qui s'intitule Mayotte à peu près, où justement en fait on a voulu mettre en avant l'approximation un petit peu généralisée qu'on a ressentie dans les discours médiatiques et politiques après le cyclone. C'est un collectif qui était en création en fait depuis septembre 2024 et en fait le cyclone a vraiment participé à fédérer ce groupe puisque... tous les chercheurs et chercheuses qui étaient déjà présents dans ce collectif, c'est des gens qui ont soit habité là-bas, soit qui habitaient pendant le cyclone. Donc il y a eu quand même un moment, un besoin de prendre des nouvelles, de se rassembler en fait autour de cet événement-là. Et en fait, très vite, surtout, dès le lendemain, il y a eu un communiqué donc, d'une députée de Mayotte qui a directement en fait, pointé précisément ceux qui avaient empêché la destruction des bidonvilles. Ce qu'elle annonçait, c'était que les bidonvilles allaient être des cimetières absolument à ciel ouvert sur tout le territoire et que finalement, les responsables du cyclone et de ses conséquences étaient ceux qui avaient empêché justement la destruction des bidonvilles. Et en fait, ça, c'est un discours qui, je pense, nous a immédiatement quand même sidérés, en fait, de son absurdité, enfin, de discursive, hein, que ça ancrait très vite, puisque c'est quelque chose qu'on a entendu très rapidement sur le fait qu'il fallait interdire les bidonvilles, ce qui est quelque chose sans aucune logique. Donc on s'est rassemblés à ce moment-là et après surtout on a eu une période de multiples sollicitations. Je sais pas trop comment, mais on avait été identifiés alors qu'on est tous quand même soit jeunes chercheurs, jeunes chercheuses, soit encore en doctorat. Donc on avait fait une tribune très courte juste le lendemain du cyclone, justement un petit peu pour contrer ce discours-là. Mais c'était très réactif en fait, donc on n'est pas habitué à être sur ce temps-là de la réaction. Et après, ça en est suivi une période, ce mois de décembre, janvier, où il y a beaucoup, beaucoup de choses qui ont été dites en fait sur Mayotte, produites. C'est aussi quelque chose qu'on a eu du mal à digérer, je pense, sur le moment, parce qu'on n'était pas habitué que autant de données d'un coup sortent sur ce territoire-là. Donc c'est quelque chose qui nous a un peu déstabilisés. Et puis surtout, on était, je pense, un peu noyés dans toutes les approximations qu'on entendait. Et on a commencé à être surtout très, très, très troublés et gênés de ce côté à la louche, quoi, sur ce qui était dit sur Mayotte. C'est, enfin, à la fois en termes de chiffres, à la fois en termes d'opérationnalité réelle de ce que les politiques avançaient. Et je pense qu'on a voulu déjà raconter cette période-là de point de vue de chercheur et remettre à notre échelle des informations en avant qu'on avait.
Tanguy, tu veux ajouter quelque chose sur cette tribune ?
On a voulu réagir à tout un tas de choses que les gens se permettaient de dire sur Mayotte sans réellement savoir. Et on a un exemple très, très concret, c'est celui du chiffre de la population totale à Mayotte. On entend régulièrement que la population de Mayotte serait largement sous-estimée par l'INSEE, qu'elle serait beaucoup plus que simplement autour de 300 000. Sauf que maintenant, avec les conséquences médiatiques, notamment de Chido, on a eu des discours jusqu'au sommet de l'État, notamment un ancien Premier ministre a parlé de chiffres du recensement qui n'était pas bon et qui serait en fait peut-être autour de 500 000 ou de 300 000 habitants. Il y a même des personnes qui ont avancé les chiffres allant jusqu'à 800 000 habitants à Mayotte, alors que tous les experts s'accordent pour dire que les chiffres du recensement à Mayotte sont globalement bons, puisqu'il y a énormément d'arrivées de manière régulière ou irrégulière du point de vue de la France, donc sur le territoire de Mayotte, mais il y a également beaucoup de départs, que ce soit à La Réunion ou dans l'Hexagone ou même ailleurs. Autre chose, l'INSEE en fait démontre très clairement l'ampleur de cet accroissement démographique qui est très important à Mayotte, puisque la population entre 2012 et 2017 a augmenté en moyenne de 3,8% par an, ce qui est énorme, c'est plus du double du pourcentage en Guyane, et si on compare avec le chiffre de la moyenne nationale, il est de 0,3%. Donc à Mayotte, je rappelle 3,8%, l'INSEE démontre bien clairement l'ampleur de l'accroissement démographique à Mayotte avec les chiffres qu'il produit régulièrement déjà.
En préparant cet entretien et du fait de sa médiatisation, on a présupposé que le cyclone avait eu de vastes conséquences sur vos enquêtes et sur l'orientation de vos recherches. Mais vous nous avez dit que ce n'était pas forcément le cas. Comment est-ce que vous expliquez ce décalage et qu'est-ce que cela révèle du regard porté sur votre terrain ?
Le lendemain du cyclone, il y avait vraiment les images donc de Kawini qui... Kawini était complètement détruit, donc... Je pense que le poids de Chido, finalement, dans nos thèses respectives, on l'a plutôt négocié en étant en hexagone. C'était justement dans cette distance avec le territoire aussi qu'on l'a négocié, justement. Et en fait, très très vite, pour le coup, j'ai pas d'éléments précis sur la temporalité, mais en fait, l'habitat donc précaire qui a été particulièrement touché par le cyclone s'est reconstruit très très vite. Et il y a beaucoup aussi de maisons qui étaient donc en dur, qui n'ont pas forcément bougé. Donc en fait, moi, quand j'y suis retournée là en mars, ce qui avait changé, c'était qu'on voyait beaucoup plus les habitats, justement, précaires. Et on voyait aussi à quel point ils s'imbriquent avec les habitats en dur. Et moi, ça a surtout modifié quelque chose que j'ai analysé dernièrement, c'est que l'habitat se durcifie beaucoup depuis Chido en réaction justement à la panique que ça a créé, au traumatisme que ça a créé. Donc en fait, c'est quelque chose qui va probablement modifier le projet et son avancée telle qu'a été prévue, puisque... c'était, on va dire, plus faisable de démolir par poche de l'habitat précaire. C'est plus faisable aussi, enfin, en termes concrets, matériels, mais aussi symboliquement, politiquement sur place, de démolir de l'habitat en dur. Ça, tous les acteurs sur place le disent. Ça va être plus compliqué. Ça va être plus compliqué aussi en termes de négociation de politique locale. Donc ça va forcément modifier le projet et ses conditions opérationnelles. Après, ce qui a par contre été très déroutant aussi, c'est que ça a très peu changé les projets, en fait. C'est-à-dire que le projet est resté le même, il y a eu un temps d'arrêt, un budget de réparation alloué à Chido, mais en fait qui intervient un petit peu comme une parenthèse et un point de blocage, mais parmi d'autres, en fait, de tous les blocages qui ont été rencontrés sur la période récente. Ce qui peut-être se transforme, c'est le risque, le rapport au risque et le discours par rapport au risque et aux vulnérabilités, notamment des risques naturels, donc risque de cyclone, était déjà présent dans l'argumentaire, on va dire, des projets urbains, dans la promotion de la transformation du quartier et de la destruction aussi de l'habitat informel, de sa résorption. C'est quelque chose qui est vraiment mis en avant différemment depuis le cyclone et qui finalement, là où il est compliqué, c'est qu'il vient un peu mettre tout le monde d'accord, c'est-à-dire qu'il y a cet enjeu de protection par rapport au risque contre lequel personne ne peut ou ne va frontalement s'opposer, mais qui en fait pose des questions d'inégalité justement par rapport à cette protection, puisque beaucoup de catégories, notamment donc les populations en situation irrégulière, vont être exclues de la ville justement qui va être produite, qui va être la ville de projet, mais finalement les projets en eux-mêmes continuent et en fait l'argumentaire est peut-être plus facile à faire passer, en tout cas selon certains acteurs en tout cas.
Tanguy, est-ce que le cyclone a eu des conséquences sur ton terrain ?
De mon côté, Chido a eu des conséquences sur ma recherche, c'est évident, mais pas autant que je ne l'avais imaginé au tout début. En 2025, je pensais vraiment ne pas pouvoir faire mon terrain, devoir l'annuler, ne serait-ce que d'un point de vue éthique, je ne pensais pas possible et bon de venir enquêter auprès d'une population de jeunes dont certains sont déjà en situation de grande pauvreté, vulnérabilité, précarité. Finalement, au bout de quelques semaines, la vie a repris son cours petit à petit. Une fois l'urgence passée, l'école a repris à partir de la fin du mois de janvier. La vie a commencé à reprendre son cours. J'ai pu maintenir mon séjour dans les dates que j'avais imaginées, donc à partir de fin février, c'est-à-dire un peu plus de 2 mois après le cyclone. C'était une phase qui était donc plus qualitative après l'enquête par questionnaire dont j'ai parlé tout à l'heure. Et donc j'ai réalisé une trentaine d'entretiens après Chido cette fois-ci. Donc c'est-à-dire que j'ai pu exploiter les données de mon questionnaire qui étaient des données avant Chido et donc les entretiens que j'ai réalisés après Chido. Des entretiens au cours desquels je commençais systématiquement par demander à mes enquêtés comment elles allaient. Tout simplement, comment ils avaient vécu Chido, est-ce qu'ils avaient le sentiment que la vie redevenait comme avant le cyclone à ce moment-là, quand je les voyais. Je leur demandais vraiment, est-ce qu'ils avaient l'impression que la vie redevenait comme avant, et non, est-ce que la vie redevenait à la normale, puisque la normale, on ne sait pas vraiment ce que c'est, est-ce que c'est une vie normale pour certains avant le cyclone, et c'est justement quelque chose sur lequel je voudrais revenir, parce que je me suis rendu compte que pour un certain nombre d'enquêtés, les conséquences du cyclone ont été bien sûr très importantes. Le cyclone a beaucoup choqué, il a été un véritable traumatisme, c'est certain. Et un certain nombre de personnes ont vite été rattrapées par les difficultés de leur vie quotidienne, finalement, et se sont retrouvées à recommencer leur bataille pour trouver un rendez-vous à la préfecture pour leur titre de séjour, par exemple, ou d'autres se sont retrouvées à préparer leur avenir. D'autres jeunes que j'ai pu avoir en entretien par téléphone se sont retrouvés à poursuivre leur année de terminale à La Réunion ou en Hexagone, puisqu'ils ont eu la possibilité de quitter Mayotte juste après le cyclone pour terminer sereinement leur année. Donc au cours de ces entretiens, je leur posais la question au début, je leur demandais comment ça allait, ils m'en parlaient pour certains quelques mots, pour d'autres un petit peu plus, tout dépendait des personnes. Et je me suis rendu compte que finalement, la question du cyclone est très peu revenue dans la suite des entretiens. Finalement, les jeunes, comme le reste de la population, s'est retrouvé assez rapidement à retrouver ses activités quotidiennes malgré les conséquences de Chido, quoi. C'est le sentiment en tout cas que j'ai pu avoir.
Merci beaucoup Sarah Bronsard et Tanguy Maton-Cécilion d'avoir participé à Souterrain. Vous nous avez permis de comprendre les défis de la recherche dans un territoire marginalisé et en proie à une catastrophe climatique. Je suis Mathilde Tonfourcade et ce podcast, produit par Noria Research, a été préparé par Cécile Jean Mougin, Camille Abesca, Sixtine Desrours, Claire Leforrieux et Iris Lambert. À la réalisation, Tante Agatha de Parole Parole. Un grand merci et à bientôt.